Formellement, oui, puisque le nouveau président n'appartient pas à la famille. Donc, il y a bien un point de non-retour. Cela dit, ça prendra un petit peu de temps avant que la famille Castro relâche complètement son contrôle. Raúl Castro sera de toute façon secrétaire général du Parti communiste jusqu'en 2021, au prochain congrès du Parti communiste. La famille contrôle aussi les forces armées, une partie de l'économie. Donc, ça va être un président un petit peu surveillé par la famille Castro et ça prendra un peu de temps avant qu'il affirme son autorité et qu'on puisse vraiment parler d'une page définitivement tournée.
Alors, vous parlez de l'armée qui serait toujours entre les mains de la famille Castro, mais selon plusieurs indiscrétions, celui-là même qui va remplacer Raúl Castro, il fait partie presque de la famille Castro.
Oui, on peut le dire, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'il est très proche, il était premier vice-président du Conseil d'État, donc à ce titre-là, favori pour succéder à Raúl Castro. Donc oui, c'est un petit peu son protégé, je dirais, mais il y a quand même quelques inconnus sur la façon dont il gouvernera le pays et dont il entreprendra de le réformer, parce qu'il y a un agenda de réforme quand même très chargé. Donc c'est en traitant ces questions tout à fait concrètes des réformes qu'il pourra éventuellement affirmer son autorité.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un réchauffement des relations positivement entre les États-Unis et Cuba ?
Cuba y est disposé, en tout cas, c'est sûr, mais la balle est dans le camp des États-Unis et de l'administration Trump. C'est là que se trouve une résistance politique à poursuivre dans la voie tracée par Barack Obama. Les Cubains font tout leur possible pour effectivement avancer, progresser, mais malheureusement, je pense qu'ils ont pas grand espoir que cela se produise avec Donald Trump à la Maison-Blanche.
Donald Trump qui a imposé des restrictions à Cuba tout en maintenant avec lui des relations diplomatiques. Est-ce qu'on peut dire que ce changement à la tête de l'État cubain pourrait peut-être impulser une nouvelle dynamique entre Washington et La Havane?
Il faudrait pour cela que le nouveau président envoie des signaux très forts d'une volonté de réforme qui aille dans le sens de ce qu'attend les États-Unis, c'est-à-dire une démocratisation, c'est-à-dire des élections libres, compétitives, cesser de violer les droits de l'homme, plus de liberté publique, le retour des opposants, enfin toute une série de conditions qui feraient que Cuba ne serait plus Cuba et qui est donc absolument impossible à envisager maintenant. Et j'ai bien peur que en dehors de ces signaux que pourrait envoyer Cuba, eh bien, l'administration Trump ne fera pas un geste supplémentaire pour réchauffer encore plus les relations et aller vers un abandon de l'embargo.
Après 59 ans qui ont marqué le triomphe de la révolution là-bas à Cuba, pensez-vous que les Cubains même sont disposés à changer de cap ?
C'est très compliqué. D'une certaine façon, les Cubains sont attachés à leur modèle, un petit peu par nationalisme, un petit peu par fierté, un petit peu parce qu'il y a quand même des acquis des meilleures heures de la Révolution. Et donc, tout est assez bien ficelé, tout est assez bien contrôlé. La population souhaite évidemment des améliorations dans son quotidien et de pouvoir vivre finalement de façon plus confortable. Mais il n'est pas sûr que ce soit des revendications très politiques. Il y a du consumérisme chez la jeunesse en ce moment à Cuba qui voudrait pouvoir vivre normalement, entre guillemets, mais c'est pas sûr qu'ils défendent un projet politique précis, en tout cas qui corresponde à ce qu'attendent les États-Unis.
Comme les États-Unis, pensez-vous aussi qu'il n'y a pas de démocratie à Cuba ?
Alors c'est une question compliquée. Évidemment, si on prend la conception traditionnelle de la démocratie qui est centrée essentiellement sur des élections concurrentielles, c'est évident qu'il n'y a pas de démocratie à Cuba. Si on adopte une définition un petit peu différente, qui regarde la vie politique au niveau local, qui regarde la vie de quartier, qui regarde de possibles discussions, délibérations au niveau local, il y a certains signes de démocratie dans l'île, mais en tout cas, c'est un régime qui reste quand même très autoritaire et qui n'accorde pas beaucoup de liberté publique. Donc la population peut-être délibérer à l'échelle locale sur des questions très concrète et très locale, mais ne peut pas débattre dans un espace public sur l'avenir du régime politique.
Alors après donc, la disparition ou la mort de Fidel Castro, qu'on a souvent qualifié de dictateur, on disait qu'il n'y avait plus donc, de prétexte au maintien d'une soi-disant, si vous voulez, économie socialiste. Est-ce que vous pensez que le système va s'effondrer avec ce départ annoncé de la dynastie Castro au pouvoir ?
Je ne suis pas sûr de savoir exactement ce que vous voulez dire par un système qui s'effondre. le système, il a déjà profondément changé, hein, c'est-à-dire il y a une évolution lente, il y a un creusement, par exemple, des inégalités qui est très spectaculaire dans l'île et qui fait qu'on ne peut plus guère parler d'une société socialiste parce qu'il y a des profondes inégalités et il y a des activités privées dans l'île, il y a des comportements capitalistes ou capitalistiques dans l'île. Donc le modèle a quand même déjà beaucoup évolué. La question, c'est de savoir s'il va évoluer encore davantage vers plus d'activités confiées au secteur privé et donc une place plus importante aux gens qui disposent de moyens, d'argent dans l'île. Il y en a déjà beaucoup. Est-ce qu'ils vont avoir finalement une voix plus politique, intervenir, servir de groupe de pression? Il y a pas mal d'interrogations, mais ce qui est sûr, c'est que on est éloigné du modèle traditionnel déjà et on se rapproche plus de ce que les Vietnamiens appellent une économie de marché socialiste.
Est-ce que vous pensez que les Cubains, dans leur grande majorité, aimeraient justement se lancer dans cette nouvelle économie?
Oh oui, je pense. Il y en a déjà beaucoup qui ont pris au pied de la lettre la réforme qui autorise les activités privées. Mais pour l'instant, la liste de métiers ouverts aux initiatives privées se caractérise par des taux de qualification assez bas. C'est-à-dire on peut ouvrir un salon de coiffure ou un restaurant à Cuba et en faire une activité lucrative et privée, mais on ne peut pas être avocat ou professeur et vendre sa qualification. Donc pour l'instant, les activités privées sont des activités qui sont peu qualifiées et le régime garde le contrôle, des ressources humaines avec un niveau élevé de qualification.
Et sur le plan géopolitique, que représente aujourd'hui encore Cuba dans cette partie de l'Amérique latine ?
L'Amérique latine est divisée au sujet de Cuba. Il y a une Amérique latine qui est gouvernée par une gauche assez radicale, comme au Venezuela ou en Bolivie, et qui admire Cuba pour sa capacité à résister à l'impérialisme, selon le jargon qui est employé par ces gouvernements-là, et qui admire Cuba aussi pour, ses indicateurs sociaux et les acquis de la Révolution en termes de médecine, en termes de logement, en termes d'éducation, de culture, etc. Et ça, c'est une Amérique latine qui ferme les yeux sur les violations des libertés fondamentales. Et puis, il y a une autre Amérique latine plus conservatrice qui, évidemment, critique fortement Cuba, qui critique fortement le projet totalitaire de Cuba et les violations des libertés publiques. Donc, il y a des avis qui sont assez partagés. La seconde étant quand même aujourd'hui plus dominante, puisqu'il y a moins de pays d'Amérique latine qui sont gouvernés à gauche aujourd'hui. Donc l'hostilité à l'égard du régime cubain est quand même assez largement répandue dans le continent.